Et nous retrouvons tout de suite Agora, le magazine de la rédaction, en partenariat avec Maxentre, présenté aujourd'hui par Sophie Deschamps et Frédéric Sabourin. Bonjour à tous.
Bonjour à tous, bonjour Stéphane, bonjour Frédéric.
Bonjour.
Notre invitée est aujourd'hui Viviane Jehanet, vice-présidente du Loiret chargée de l'insertion et de l'habitat. Et nous allons plus particulièrement parler du plan emploi qui a été voté le 6 octobre dernier en conseil départemental lors de la session.
Bonjour à vous.
Viviane Jehanet, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va dire un énième plan pour l'emploi. Qu'est-ce que celui-ci est censé apporter de nouveau ?
Pour le département, c'est dans le cadre du projet de mandat. C'est aussi, il découle aussi des journées thématiques qui ont été faites au département, c'est-à-dire les journées de l'insertion, des journées RSA, des journées entières, donc qui ont apporté des éléments puisque tout le monde a pu s'exprimer. Donc ce plan d'action pour l'emploi découle de ces journées. Du projet de mandat où il est important aussi de s'adresser aux bénéficiaires du RSA pour l'emploi. Enfin, c'est quand même la politique volontaire du département d'aller dans ce sens et c'est pour ça qu'est né ce plan d'action pour l'emploi.
Mais est-ce qu'il a des particularités, des nouveautés
Je crois que la première chose, le premier point d'ailleurs de ce plan d'action, c'est le profil, d'évaluer le profil des bénéficiaires pour les diriger vers l'insertion qui leur correspond le mieux. Alors, il s'agit de mettre en place une plateforme pour faire une évaluation, mais une évaluation beaucoup plus poussée. Vous savez, alors je vais faire une caricature, forcer le trait, mais par exemple, une évaluation, et c'est arrivé quand même souvent, de dire vous avez des diplômes, non, je n'ai pas de diplôme, donc vous êtes dans cette case-là, sans diplôme. Alors que on se rend compte, et je pense que chacun de nous a cette richesse, c'est d'avoir des habiletés. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de diplôme peut, par exemple, démonter un moteur ou monter des murs ou travailler le bois.
L'intelligence de
la main. Et puis, donc, ça existe. Et je pense qu'on l'a oublié, ça. C'est-à-dire qu'on pose quand même un peu comme ça dans des cases. Et après, on ne va pas rechercher ces gens-là sur un emploi puisqu'il n'est pas ciblé, il n'a pas été détecté.
Il n'y a pas un diplôme en face.
Voilà.
Ce mal est un mal français dont on se plaint depuis 40 ans.
Oui, mais moi je le dis depuis
un diplôme,
très
une case, les gens dans la case avec le bon diplôme. Voilà. Enfin, si vous avez Sciences Po sur votre ligne de CV, hein, vous n'aurez jamais de problème dans la vie. Hein. Mais ça, on le constate depuis très longtemps. Comment est-ce qu'on arrive à inverser la tendance par des petites choses comme ça, comme vous, enfin des petites choses, c'est pas péjoratif, hein, mais par des choses comme ça. Dont
non,
vous
mais
venez
je pense que c'est important. Moi, je l'ai dit depuis des années en parlant de l'habileté. Mmh. Et j'ai entendu récemment que Pôle Emploi reprenait ce mot habileté. J'en suis ravie, mais c'est pour ça cette plateforme doit aller chercher ça aussi. Donc c'est pour ça une évaluation beaucoup plus poussée pour déterminer encore une fois dans quel sens. Accompagner ces gens-là dans le domaine qui les intéresse. On va beaucoup mieux quand même dans quelque chose qui vous motive, qui vous intéresse, que si on vous met là et puis on dit bah oui, c'est comme ça.
Le département de juste à côté, hein, le Loir-et-Cher, vient de lancer cette année, 2017, une application, un site internet, Bonjob 41. Ils avaient appelé ça le Bonjob 41 et puis le Bon Coin leur a fait un petit signe de la main en leur disant attention, le bon quelque chose, on l'avait déposé. Donc ça s'appelle Bonjob 41. C'est une plateforme qui permet de mettre en adéquation et en relation des bénéficiaires du RSA qui sont au chômage des fois depuis très longtemps. Quand on dit très longtemps, c'est plus de 2 ans, 3 ans,
bien sûr,
parfois
y a beaucoup plus.
Et puis des chefs d'entreprise, quels qu'ils soient, en Loir-et-Cher, qui disaient « mais on ne trouve pas la main-d'œuvre dont on a besoin ». Ça, c'est un autre truc qu'on entend et on ne l'entend pas que dans le Loir-et-Cher, on l'entend aussi dans le Loiret.
Partout, oui.
Est-ce que cette expérience-là, le Loir-et-Cher a dit c'est intéressant parce qu'il y a 35 départements en France qui sont venus voir comment on faisait, comment on avait mis ça en place, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez aussi proposer au président du conseil départemental et à la majorité cette histoire de plateforme internet pour mettre ça a permis déjà à plus de 500 bénéficiaires du RSA d'être mis en relation directement avec des chefs d'entreprise et pour un nombre non négligeable d'entre eux de déboucher sur un travail.
Alors on fait concurrence à Pôle emploi normalement en faisant ça.
Bon bah écoutez, pourquoi pas.
Encore une fois, c'est dans ce sens-là où va notre plateforme d'aller chercher les talents de ces bénéficiaires pour les diriger le mieux possible. C'est vrai que les chefs d'entreprise, et ça fait partie, on en parlera peut-être tout à l'heure, moi je suis convaincue, ce qui se passe aujourd'hui, les chefs d'entreprise, ils sont appelés de tous les côtés, parce qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs de l'insertion sur notre territoire. Chacun veut bien faire, c'est plein de bon sens.
Il y en a trop, Viviane Johannet ? Il y en a trop,
Moi, c'est mon avis tout à fait personnel, pour l'avoir vécu sur le territoire qui m'occupe dans le Montargois, c'est qu'ils reçoivent 15-20 coups de téléphone par jour. Et il arrive aussi, moi j'ai des cas concrets, qu'on envoie effectivement, on leur dit, tenez, on vous envoie monsieur ou madame un tel, et que ça correspond pas du tout à ce qu'ils recherchent. Et je crois qu'il faut essayer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, notre société a changé, je pense qu'il faut réfléchir, il faut travailler différemment. Aujourd'hui, un chef d'entreprise, c'est le monde économique est comme ça, ne peut pas se permettre de mettre un ouvrier spécialisé derrière la personne qui arrive pour le former. J'ai dit, ça avait fâché une dame de la région en disant, vous envoyez quelqu'un à ce monsieur-là, c'est arrivé à ce chef d'entreprise, si vous envoyez chez un peintre quelqu'un qui ne sait pas si le pinceau se prend par les poils ou par le manche, évidemment c'est une caricature, mais on peut maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que les chefs d'entreprise ont besoin aussi de recevoir quelqu'un qui a déjà un minimum, sache un peu de quoi on parle. Je vous dis, si vous envoyez un bénéficiaire du RSA qui est dans la mauvaise case mais qui sait démonter un moteur, si vous l'envoyez chez un mécanicien, ça va se passer certainement mieux.
Donc, c'est pas si grave que ça, de la part d'une collectivité locale comme le département, de faire, comme on le disait juste à l'instant, le travail de Pôle emploi. Si on constate que Pôle emploi est débordé pour tout un tas de raisons, on n'est pas en train de faire des jugements de valeur, on le constate, Pôle emploi est débordé. D'abord par le nombre de chômeurs et puis par la fusion qui a été faite à marche forcée, etc. Si les collectivités aident à mettre les gens en relation et dans les bonnes cases, c'est pas grave.
Non,
au contraire, c'est intéressant.
Grave. Et on a fait une expérience d'ailleurs très récemment au département, tout à fait dans ce thème-là, on a fait le forum Amazon. Et je pense que
le forum Amazon, c'est pour travailler chez Amazon, on imagine.
Voilà. Oui. Mais il ne s'agissait pas d'avoir l'entreprise Amazon là. Il s'agissait des bénéficiaires du RSA inscrits. On a fait une journée, on les a transportés, on les a fait venir du territoire du Montargois, du Petit Vray, etc. Ils ont véhiculé jusqu'à Orléans. Là, je pense que c'est la bonne démarche. On leur a expliqué l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils ont eu un temps où ils ont visionné ce qui se passait dans l'entreprise Amazon, c'est-à-dire avec le positif et puis aussi les contraintes, c'est-à-dire qu'on vient avec des baskets parce qu'il faut marcher, on a des vêtements amples parce que il faut
plutôt
se placer,
sport, ouais.
On laisse le smartphone à l'entrée, voilà.
Montre et bijoux, tout est laissé à l'extérieur.
C'est... On dit exactement ce qui se passe dans l'entreprise. On dit aussi qu'il y a la cafétéria, qu'il y a une salle de détente avec des jeux. Mais on montre exactement ce qui va se passer, les postes qui sont offerts. C'est-à-dire
il y a tout type de postes,
mais qui est présenté, qui est visuel. Et ensuite, ils ont passé un test. Pour voir s'ils avaient bien compris tout ça. Et à partir de là, en partenariat, nous avions la CAF, Pôle emploi et des agences d'intérim où ces gens-là étaient inscrits. Et là, à partir de la réussite des tests, ils avaient immédiatement un entretien dans l'entreprise. Et je pense que c'est la bonne démarche. Déjà, savoir de quoi on parle, exactement ce qui se passe dans l'entreprise, Et puis ensuite, passer des tests. Et puis, ils étaient... Moi, je suis restée pour interroger les gens qui avaient passé les tests et qui, comment ils vivaient ça. Et ils m'ont tous dit, ce qui est important, c'est que c'était fléché. Le parcours, aujourd'hui, il n'y avait pas de... On n'était pas dans la cohue, perdu, sans savoir de quel côté on va, quel guichet on va voir ou quel centre.
Donc, on voit ce besoin d'accompagnement. Mais combien sont venus sur les personnes que vous aviez invitées?
Alors, évidemment, ils ne sont pas tous venus. Il y avait 200, je crois qu'on avait sollicité. C'était pas une convocation. 200 quelques personnes, il en est venu 100, à peu près 100.
Ouais, c'est déjà un bon ratio.
Non, mais c'est bien. Et sur les 100, 30%. 30% ont réussi les tests. Alors, je n'ai pas le retour de qui a été vraiment pris dans l'entreprise. J'attends ce retour-là, je ne l'ai pas. Mais pour moi, c'est une très, très belle expérience.
Juste pour préciser une dernière chose, c'est bien parce que Amazon peut faire ça, c'est une grosse entreprise, mais le petit chef d'entreprise, encore une fois, ce n'est pas péjoratif, le chef d'une petite entreprise, TPE, PME, qui a 5 ou 6 salariés, puis à un moment donné, il a un besoin.
Oui.
Il n'a pas les moyens, lui, de faire une vidéo à tout casser pour montrer la réalité de son entreprise.
C'est pas Amazon qui l'a faite. Hein.
Oui. Et qui l'a fait alors?
C'est ce que l'on a fait avec les agences d'intérim.
Très bien. Mais est-ce qu'on peut imaginer le même dispositif pour un patron de TPE ou de PME?
Oui. Alors moi je suis.
Parce qu'eux aussi ils sont en recherche, ils trouvent pas, et puis voilà ce qu'on disait tout à l'heure, des allocataires RSA qui trouvent pas non plus.
On peut aller plus loin. Moi je peux rester la journée si vous voulez.
Ça sera avec plaisir.
Non, mais quand vous parlez de petites entreprises, on a par exemple des chaudronniers, des chaudronneries qui cherchent.
Grande tension.
Mais eux, on peut pas leur présenter. Il faut quelqu'un qui soit formé. Et on revient, et je me tue à dire ça, mais depuis là aussi très longtemps. Il faut absolument qu'en fonction des territoires et de ce qui est demandé, que la formation sur le territoire corresponde à ce qui est demandé. On a exactement le même souci dans un café. Vous avez vu un patron de brasserie ou un café, un petit café, qui s'est fait homme sandwich pour trouver un serveur et qui a fait le buzz sur...
Sur un réseau social.
Et ensuite, parce qu'il y a beaucoup de demandes et ils n'arrivent pas à trouver, les patrons de café étaient tous en homme sandwich, ils ont fait la photo. Mais on arrive à ça. Donc il faut, et dans les petites entreprises, quand vous prenez des grosses entreprises comme Amazon, il y a du turnover et puis il y a des emplois qui sont moins pointus. Que dans une toute petite entreprise. On va le refaire sur d'autres territoires. Il y a des entreprises, par exemple, de nettoyage qui demandent beaucoup de monde aussi, en fonction des territoires et des... je crois qu'il y a l'entreprise de Ré, je ne sais pas si je peux les citer. Mais enfin,
c'est trop tard. Bon, c'est pas grave.
Qui, lui aussi, a beaucoup d'emplois. Donc, mais... C'est évident, et moi je dis que le maillon qui manque, c'est de la formation, mais il ne faut pas un plan de formation départemental, il faut sur le territoire, si on a besoin de charpentiers, pardon.
On en reparle dans un instant après ça.
RCF, la joie se partage.
Vous écoutez Agora en partenariat avec Maxentre et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Viviane Johannet, vice-présidente du Loiret, chargée de l'insertion et de l'habitat. Et nous parlons notamment donc de ce plan emploi qui a été adopté le 6 octobre dernier par le Loiret. Viviane Johannet, là on vient de parler des bénéficiaires du RSA, Revenu de Solidarité Active. Le problème c'est qu'à peu près 30% des personnes qui pourraient bénéficier de ce RSA n'en font pas la demande. Or on voit que toutes les mesures que vous proposez sont proposés aux bénéficiaires du RSA. Donc, est-ce que le préalable, ce ne serait pas déjà d'essayer d'aller chercher les personnes qui ne sont pas inscrites au RSA, d'autant qu'il y a des raisons assez multiples à cette non-inscription?
Bien sûr, on parle du non-recours, non-recours à l'allocation RSA. Alors, ce qui se passe aussi, on est dans notre société, c'est aussi des faits de société, on peut avoir des accidents de vie. Chômage, plus ce qui peut arriver dans la famille, un divorce, une maladie, etc. Ce qui se passe, c'est que ça va très vite et ça peut arriver
à
tout le monde, aux plus malins d'entre nous. Et ce qui est dramatique, pour moi, là encore une fois c'est personnel, c'est que demander le RSA colle une étiquette. On dit, c'est sensible pour ces gens-là, c'est d'être mis là aussi dans une case en disant je fais partie des bénéficiaires du RSA, et c'est psychologiquement très difficile à accepter. Et on a beaucoup de non-recours, dans ces cas-là. Des accidents de vie, des gens qui n'ont jamais rien demandé aussi. Hein, vous avez des gens qui c'est pas dans leur mentalité, c'est pas comme ça qu'on vit.
Et puis on dit tellement que ces gens-là sont des assistés,
oui, parce que
ça donne pas tellement envie de le faire. C'est
encore
sûr.
Une fois, on pose une étiquette, oui, et on fait un amalgame. Comme dans beaucoup de sujets d'ailleurs, on a tendance à faire un amalgame.
Il n'y a pas que celui-là, effectivement.
Il n'y a pas que
oui,
celui-là.
Parce que vous me disiez hors antenne que le nom de plan pauvreté fait sortir de vos gonds.
Absolument. Le plan pauvreté, pour moi, c'est le mot. Le mot pauvreté. Vous allez dire à quelqu'un, écoutez, vous rentrez dans le plan pauvreté. Et je le ressens, mais j'ai des sensations corporelles à ce moment-là. Je pense que ça... on a des soucis, on est en pleine misère. Et bon... plan pauvreté.
Et pourtant, c'est une réalité.
On a vu ce
chiffre cette semaine-là. Cette semaine, 9 millions de Français vivent avec, en dessous du seuil de pauvreté, à 1 000 euros par mois, moins de 1 000 euros par mois.
Oui.
9 millions de Français. Je veux dire, ce chiffre devrait nous faire tomber à la renverse dans les rues. On devrait voir les gens se rouler par terre d'indignation et on devrait mettre toute notre énergie à lutter contre ça.
Il
faut, à un moment donné, il faut bien un curseur, une limite.
C'est pas du tout.
Le mot pauvreté,
c'est le mot. C'est le poids du mot. Vous savez, les mots, quand vous.
Mais c'est une réalité pour les gens. Ils le disent eux-mêmes. On est pauvres.
Mais allez leur dire, enfin je ne sais pas, on peut leur dire, bon, vous êtes dans une situation difficile, mais on va vous accompagner, on va vous aider. Plutôt, dans le plan pauvreté, vous avez droit à ça. C'est la formulation, et c'est le mot. Pour moi, il y a des mots qui peuvent tuer.
Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire, Viviane Jeannet, pour que justement plus de personnes, osent s'inscrire à ce dispositif de RSA?
Alors là, encore une
fois, ça va vous coûter plus cher au département, mais ça va leur permettre également d'avoir toutes les aides financières et autres que nous sommes en train de détailler.
Je crois qu'il faut aussi que ces gens-là, c'est pour ça qu'il faut le dédramatiser, ou peut-être aussi qu'on fait pas, on n'emploie pas non plus les formules qui, je sais pas, adaptées pour leur dire, attendez, on va vous aider, ça va vous permettre de respirer, de vous remettre le pied à l'étrier. Peut-être que le discours qui concerne ces personnes-là n'est pas adapté. Et justement, oui, vous êtes là, c'est pas drôle, vous avez droit à ça. Enfin, je sais pas, de dire, attendez, c'est provisoire, mais ça va vous permettre de, encore une fois, une bouffée d'air pour vous remettre dans une autre situation.
Surtout que si on ne fait pas recours, si on ne fait pas appel au RSA, il y a forcément, on trouve forcément d'autres moyens de subsister et de survivre, par du travail au noir, par des arrangements, enfin je ne sais pas, enfin des gens qui vous prêtent de l'argent, mais enfin ça va qu'un temps, hein, ça dure pas très longtemps en général. On vous prête pas 500 euros comme ça par mois pendant un an. Enfin, je connais pas d'amis moi qui font ça. J'aimerais bien, mais voilà. Donc c'est peut-être une façon de leur dire aussi, c'est mieux que la débrouille dans laquelle vous êtes actuellement, de vous faire aider un temps par le département.
Oui, moi, pour compléter la question de Frédéric, est-ce que c'est un message que vous faites passer justement dans les services de l'action sociale du département?
Oui, mais vous savez aussi, là aussi, il y a un gros travail à faire, parce que, vraiment pas... le travail qu'ils font est énorme, il faut vraiment accompagner, et ils sont face à des situations souvent... terrible, voire sordide, ça c'est quelque chose, il faut vraiment, je leur rends hommage, mais il faut aussi qu'on change un petit peu de mentalité. Moi, ce que je veux des gens debout, et pas dire voilà, vous êtes là, mais vous avez droit à ça, vous avez droit à ça, vous avez droit à ça. Mais essayez de motiver et dire, attendez, là, on va vous accompagner, mais vous allez sortir de là, justement. pas.
Ce n'est pas une fin en soi.
C'est pas une fin en soi. Voilà.
L'année dernière, à cette antenne, à ce micro, on avait parlé beaucoup de la fraude au RSA. Ça avait fait beaucoup causer dans l'Assemblée départementale parce que le terme n'était pas bien choisi aussi. Le poids des mots, le choc des photos, on imaginait que ça représentait des millions. Hein, mais en fait, c'était quelques centaines, quelques dizaines parfois de milliers d'euros par rapport à la fraude fiscale. Où on avait dit d'ailleurs à cette antenne 80 milliards par an. Hein, il faudrait peut-être plus s'occuper de ça que de la fraude au RSA. Où on en est de ces histoires-là? Vous aviez mis en place justement un plan de lutte. La fraude au RSA, c'est pas forcément volontaire, c'est même souvent involontaire. Et une fois qu'on a touché cet argent, on l'a dépensé, on peut pas forcément le redonner. Comment est-ce qu'on est sorti de toutes ces affaires?
Alors, on n'est pas.
On peut en dire un mot, juste une minute.
On n'est pas forcément sorti. Ce que nous avons mis en place, ce sont les amendes administratives pour les. Alors, effectivement, il faut laisser la fraude au RSA dans son contexte et c'est pas le plus grand le domaine qui coûte plus coûteux
dans la politique départementale
dans les fraudes aux aides sociales. Donc on a mis en place ces amendes administratives pour dissuader, parce que il y a quand même
du volontariat.
Il existe quand même des professionnels un petit peu d'essayer de frauder, de tricher, on va dire. Donc voilà, c'est ce qui est mis en place. Mais c'est surtout de la dissuasion aussi pour dire, bon, allez, on va essayer de faire autrement quand même.
Alors, il nous reste quelques minutes. On va peut-être redire un mot sur la formation, parce qu'effectivement, on l'a déjà évoqué un petit peu et ça fait partie aussi des objectifs de ce plan emploi. Effectivement, on peut ne pas avoir la formation qui correspond à une offre d'emploi. Comment on peut faire pour faire coïncider les deux, Viviane Jeunet?
On demande à la région de faire un plan 500 000 formations. Mais pas uniquement.
Ben oui, c'est le problème. C'est vraiment ce maillon, pour moi, est vraiment fondamental dans un parcours, et notamment pour ce que vous disiez, les petites entreprises. Je pense au chaudronnier, parce que vraiment, on ne trouve absolument pas la personne qui convient pour leur job. Donc, la formation, oui. On a quelques formations au département, mais c'est quand même pas une des missions du département. Et il faut absolument, ça c'est pareil, je me répète, mais il faut absolument que tout le monde travaille ensemble. Le jour où on aura compris que dans ces domaines, c'est tous ensemble qu'on peut réussir, il faut que tout le monde s'y mette. Les précarés, c'est à moi, c'est pas à toi. Il faut que ce soit une volonté générale. C'est-à-dire, allez, on s'y met et on y va.
À la tête de l'État, actuellement, il y a un président qui est assez volontariste sur toutes ces questions-là de changement de mentalité, de faire travailler des gens ensemble, de ne pas partir des a priori. Ah, ça, on ne l'a jamais fait, ça ne marchera jamais, puis chacun a son précaré, etc. On va le citer, il s'appelle Emmanuel Macron. Hein. On est pour, on est contre, mais est-ce que quand même un homme qui essaye de donner cette impulsion-là, c'est pas un petit peu une bonne nouvelle quand même?
Peut-être, mais j'espère. Mais on se heurte à des. Après, c'est très bien. On dit.
C'est les grandes formules incantatoires, on est d'accord.
Je m'en rends compte, mais même au département, on peut faire ça. On va y aller. Et on se heurte.
Et on l'entend depuis quelques années. Alors, qu'est-ce qui fait que ça ne se fait pas concrètement sur le terrain?
Ça va venir.
C'est ce que vous disiez, les précarés, on veut garder son.
Non, mais il y a aussi, des problèmes techniques. Si, alors, je sais pas, le micro fonctionne pas avec l'outil que vous avez en face ou votre collègue qui vient, ça peut pas fonctionner ensemble. C'est des logiciels qui ne se comprennent pas. Ça peut bloquer la machine entre le fonctionnement, là aussi c'est de Pôle Emploi avec la CAF ou avec le département ou avec, on peut pas avoir de fichiers qui puissent travailler ensemble. Ça peut coincer à ce niveau et demander beaucoup plus de temps parce qu'il faut l'autorisation de TI, il faut l'autorisation de là et puis la CNIL a dit non et puis voilà.
Donc c'est un problème d'harmonisation également.
Eh bien oui, bien sûr. Bien sûr, il faut encore une fois un portage politique fort. Et puis dans ce plan emploi, quand même quelque chose aussi de nouveau, parce qu'un des freins, de l'insertion, c'est le déplacement, la mobilité.
Oui, j'allais y venir. Allez-y.
Ah pardon.
Allez-y, très bien.
Oui.
Et donc on va mettre à disposition des véhicules déclassés du département via un opérateur pour que les prêter à bas coût des voitures pour justement des personnes qui ont trouvé un travail et qui n'ont pas le moyen de se déplacer, de leur permettre d'aller au travail.
Eh bien, merci beaucoup Viviane Jeannet. On vous réinvitera dans quelques mois pour évaluer pourquoi pas ce plan emploi. Vous nous direz ce qui marche et ce qui marche moins bien. En tous les cas, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui au micro de RCF Loiret. C'est donc la fin de cette émission. Merci beaucoup Frédéric Sabourin.
Merci. Et merci à vous.
C'est une émission que vous pouvez retrouver en podcast sur les sites de rcf.fr et de maxcentre.fr. Bonne journée à tous.